tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores, mais aussi des rendus d'ateliers radio réalisés par Radio Saint-Fé.
Petites Échappées, c'est un peu la petite sœur de notre programme Les Ondes Buissonnières, des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Retrouvez une sélection de programmes créés par nos partenaires, collectivités locales, radios associatives ou toute autre structure ayant créé un contenu que nous décidons de diffuser.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Espace Liberté a créé, propose du 9 septembre au 22 octobre une nouvelle exposition intitulée Les courbures du temps. Elle réunit deux artistes, Catherine Tartanac, peintre, et Bruno Bienfait, sculpteur. Ce sont eux qui ont décidé du titre de cette exposition, Les courbures du temps. Chacun a rédigé pour les visiteurs un texte où s'exprime leur rapport au temps et à ses traces et à ses courbures. C'est Catherine Tartanac qui se prête d'abord au jeu de l'interview pour les auditeurs de Radio Saint-Féréol. Bonjour.
Bonjour.
En faisant quelques recherches, j'ai lu que vous disiez « Je ne suis pas allée vers la peinture. Elle est venue à moi. Elle était là comme de ces choses évidentes qui sont sous nos yeux et dont on ne mesure pas encore l'importance. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?»
Oui, avec plaisir. Et d'abord, merci d'avoir noté ces particularités que j'ai parfois mentionnées en parlant de moi, parce qu'il me semblait que c'était important. Je suis originaire de Nancy. Ma mère peignait, elle avait fait les beaux-arts, et son père et son grand-père étaient aussi des artistes. Mon arrière-grand-père, en fait, c'est pas du tout, c'est juste pour le mentionner, a été un des fondateurs de l'école de Nancy. C'est un mouvement d'art nouveau, voilà, en tout cas là-haut, c'est assez connu. Et puis son fils était sculpteur. Et après, ma mère a peint, et donc, bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai toujours senti l'odeur de la térébenthine depuis petite. Et voilà, donc en fait, c'est un peu comme la musique. Il y avait aussi beaucoup de musique dans ma famille. J'ai beaucoup de frères et sœurs, et j'en ai qui étaient musiciens professionnels, plein de neveux, nièces aussi dans la musique. Et donc, voilà, en fait, la peinture, c'était un peu naturel. Pas forcément l'art des musées, etc., mais la pratique, en tout cas, artistique de la peinture. Et en fait, assez naturellement, quand j'étais jeune encore, je n'avais peut-être même pas 10 ans, j'étais inscrite dans un atelier d'art plastique qui s'appelait les ateliers Marteneau. Mmh. Et c'est célèbre à cause des ondes Marteneau, qui est un instrument qui a été inventé par, je ne sais plus son prénom, Marteneau, et qui entre dans l'orchestre de la Durand Galila Symphonie de Messiaen. Et enfin voilà, et bref, leur sœur était plasticienne et elle a inventé une méthode assez holistique. Et donc il y a des ateliers qui ont essaimé après les années 50, je pense. Et voilà. Donc moi, depuis l'âge temps, on va dire, Mais en fait, je suis allée dans un atelier comme ça pendant plusieurs années et on apprenait, c'était bien, on apprenait avec la main droite et la main gauche au départ. Il y avait tout un projet quand même assez global, complet. Voilà. Alors, par ce côté-là, d'abord, j'ai fait ces ateliers et puis, voilà, de la pratique autour de moi, etc. Donc, c'est vrai que les premières fois où j'ai fait de la peinture, ben, j'avais pas 10 ans, j'avais juste à aller chercher 2-3 choses dans la pièce de ma mère, et puis voilà, c'est un peu dans ce sens-là.
Oui.
Et ce que je peux dire après, c'est que j'ai toujours eu cette pratique, mais sans justement considérer que ça pouvait être principal. Ça m'a toujours aidé, toujours accompagné. Et puis, ben, comme je travaillais pas trop mal à l'école, ben, ça n'a pas été envisagé comme quelque chose. Donc, j'étais plus vers des études scientifiques, mais tout en étant tout le temps fourrée aux beaux-arts et tout ça. Et puis, voilà, c'est au cours des décennies qui ont suivi qu'à force d'en faire, de pratiquer, d'être toujours dans ces ateliers-là.
Y a-t-il eu des rencontres avec des peintres qui vous ont bouleversé, qui vous ont influencé?
À deux titres. Déjà, au niveau de ce que c'est qu'une peinture, parce qu'en fait, j'ai eu quelques chocs, vraiment, je veux dire, métaphysiques dans ma vie liés à la peinture. Celui dont je me rappelle vraiment comme si c'était hier, c'était en 1992. Au Grand Palais, il y avait une rétrospective de Manessier. Et quand j'ai vu ces toiles immenses, bon, c'est pas pédant, mais j'ai eu l'impression d'être devant le Buisson Ardent, quoi. C'est quelque chose d'une verticalité incroyable. Et ça m'a accompagnée, ça m'a bouleversée, et ça me bouleverse encore. La peinture, elle a ce pouvoir, quand les peintures me touchent, de me le faire vraiment très profondément, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu... Après, voilà, la peinture, c'est pas simplement des images. Souvent, on est dans une époque où il y a des milliards d'images. La peinture, c'est vraiment quelque chose de vivant. C'est une matière, c'est du temps, justement. Le temps qu'il a fallu pour peindre, le temps qu'il faut aussi pour regarder l'œuvre. Et c'est comme s'il y avait une restitution de quelque chose comme ça qui, lentement, se réécoule vers les yeux... du regardeur, quoi. Et je me souviens d'un autoportrait de Rembrandt que j'ai vu à Vienne, c'était en 2002. J'avais tellement l'impression qu'il était là, plus vivant qu'un vivant. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de mystérieux, en tout cas, dans l'acte de regarder, quoi. L'acte de regarder, et puis dans ces matières de peinture, quoi. Il y avait l'histoire des tableaux qu'on voit, et puis... il y a aussi le fait de faire l'expérience de peindre, quoi. Et donc, vous me disiez, pour revenir à votre question, parce que ça peut vite me... c'est vraiment une expérience. Moi, j'ai l'impression que de peindre, ça me rend plus vaste que ce que je suis, au fond.
La plupart des toiles qui, j'allais dire, qui irradient dans cette galerie, hein, qui sont lumineuses, colorées, très présentes, pour moi, elles font référence à la nature. Je me trompe ou pas?
Ah oui, c'est sûr que ce n'est pas une peinture urbaine. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une sorte de paradis, hein, c'est-à-dire au contact vraiment d'une très belle nature. J'ai eu accès vraiment. Donc, c'est quelque... D'ailleurs, aujourd'hui, j'habite aussi dans une campagne dans le Vaucluse. Et pour moi, la nature, les rythmes, les saisons, les couleurs du ciel, le temps, ces changements qui alternent incessamment, etc. C'est un renouvellement permanent. Et donc, forcément, c'est extrêmement présent, quoi.
Oui. J'ai trouvé aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Vous citez Bazaine.
Ah oui.
Et vous parlez de ce sentiment mystérieux d'une transcendance éclatant dans l'ordre naturel du monde, dans le quotidien. Mais je trouve que cette transcendance, on la sent dans les toiles que vous avez.
Merci. Et, merci. Oui. J'avais un peu le moral comme ça ce matin parce que J'ai pas beaucoup dormi là pendant deux nuits, puis j'ai toujours le doute, quoi. Je me dis, mais voilà, mais que vous, au moins, vous ayez pu sentir ça, bah, c'est, pour moi, c'est énorme. Parce que, alors, Jean Bazaine, il a écrit un magnifique livre qui s'appelle c'est pas Histoire de la peinture, mais quelque chose comme ça, excusez-moi le titre. Mais ça a été mon livre de chevet, c'est toujours mon livre de chevet. Et il écrit des choses, mais avec des mots, il s'est trouvé les mots pour dire des choses qui sont si justes, quoi. Mm. Et voilà, de dire avec la peinture cette réalité qu'on pressent et qu'on sent, qui est d'une autre nature que simplement les choses finies qui se présentent à nous et qu'on voudrait simplement et d'une façon bien rationnelle mettre dans un cadre restreint. En fait, ça n'empêche pas, bien sûr, que la rationalité est complètement fait partie du monde. Et il y a des lois qui sont les mêmes pour tout le monde, que le soleil, la lune, tout ce qu'on connaît, tout ce que les scientifiques ont apporté, c'est formidable et génial. Mais ça fait partie de la rationalité que si on compte et qu'on fait 2 plus 2 égale 4, c'est bien que si tout le monde se met d'accord que ça fait 4, mais il y aura moins de disputes que si l'un il va penser que ça fait 10 ou 2. Ça, c'est une chose, mais sous couvert que c'est comme ça, très souvent, surtout peut-être plus en Occident, on oublie l'autre côté, la subjectivité, la part que nous sommes des sujets, c'est-à-dire des gens libres de dire oui, non, choisir et munis chacun d'un outil extraordinaire, de notre sensibilité, de notre cœur et de nos yeux. Et tout ça fait qu'en fait, je peux très bien dire... tiens, je trouve que il fait chaud, vous allez trouver qu'il fait froid, et les choses ne sont pas en guerre, tout peut cohabiter et les subjectivités peuvent cohabiter sans problème.
Vous avez employé le mot choix, c'est la troisième fois que vous avez fait le choix d'exposer avec nos oui. bienfaits. Vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce qu'il y a de la complicité, de la complémentarité?
Oui, alors, bon, déjà, dans l'historique, en fait, il se trouve que Bruno était un des meilleurs amis d'un de mes frères, Luc, qui était musicien, pianiste, et qui est décédé il y a 3 ans. Et en fait, bon, j'avais déjà prévu proposer une première exposition à Bruno avant la mort de Luc, mais la mort de Luc a vraiment... nous a tellement tous touchés que, bon, en fait, voilà, on se connaissait sans vraiment se connaître. Et puis, la première exposition qu'on a faite, on était vraiment assez éloignés. Et même le travail de Bruno, au début, j'ai choisi parce qu'il habite dans le Vaucluse. Je me suis dit, ça va être pratique pour aller à Paris. Et puis, je le connais un peu quand même, c'est plutôt que de proposer ça à simplement un inconnu. Et puis, son travail, ben, j'étais plutôt dans la question. J'ai même pensé à un moment que souvent ça ressemblait à des fiches de perceuses. Et c'était au début, quoi. Et puis après, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai commencé à avoir accès à voir son travail complètement autrement. Et en fait, il se tient à un point. Il y a plein de valeurs qui nous rassemblent. Et en même temps, il a une rigueur, c'est quelqu'un qui sait faire des choix, qui a une droiture, une ligne comme ça dans son travail et dans sa vie. Et du coup, c'est très précieux pour moi, parce que moi, souvent, je suis comme ça, etc., d'ailleurs, mes peintures. Et lui, c'est très épuré. Moi, des fois, je dois lutter pour ne pas en faire trop, ne pas en dire trop. Et lui, c'est simple, c'est posé, c'est...
Et pourtant, voilà. Quand on est spectateur dans cette exposition, on a l'impression que les œuvres entrent en résonance.
Oui, oui, oui.
Vraiment.
Alors,
et que c'est un choix.
Oui. Ah ben alors, l'exposition, en fait, quand Bruno m'a proposé de faire l'exposition avec lui, parce qu'au départ, c'est à lui qu'on l'a proposé.
D'accord.
Et je l'en remercie.
Ça, je l'ignorais.
Voilà. Évidemment, on avait, ayant eu fait déjà 2 expositions ensemble, on voulait créer un grand troisième, vous voyez, un tout qui est plus que la somme des deux, quoi, mm-hmm. et de créer quelque chose en plus. Voilà. Et donc, c'est en parlant, en échangeant sur qu'est-ce qui résonne, moi, dans mon travail, qu'est-ce qui résonne dans le sien, des mots. D'accord. On a beaucoup écrit, on a fait des pages et des pages de mots.
Et on y est revenu
et on a trouvé ça. Et voilà, donc il y a ça, il y a beaucoup de l'amour de la vie, il y a une grande complicité, une grande affection, enfin vraiment une amitié vraiment super profonde. D'ailleurs, les courbures du temps, les courbures de l'espace-temps, c'est un terme de la physique moderne, enfin de la physique. Et j'avais éventuellement proposé, j'avais envoyé un mail à un grand scientifique qui fait beaucoup de radio que vous devez peut-être connaître, qui s'appelle Étienne Klein.
Ah oui, bien sûr. Voilà.
Alors, pour lui proposer de venir peut-être faire une conférence. Et puis, évidemment, il était hyper pris, donc il n'a pas pu, mais il m'a répondu en m'envoyant un anagramme, en me disant l'anagramme des courbures de l'espace-temps égale superbe spectacle de l'amour. Voilà. Donc, je trouve ça chouette, parce qu'en fait, il y a ça quoi, dans ce qu'on fait et ce qu'on essaye de...
Vous auriez dû le mettre sur le papier. Des courbures du temps ou super spectacle de l'amour. J'accueille à présent Bruno Bienfait qui partage avec Catherine Tartanac l'espace de cette galerie. Bonjour.
Bonjour.
Dans un texte destiné au public, vous commencez par une citation de saint Augustin. Qu'est-ce qui fait écho en vous à cette phrase ?
Vous pouvez la lire parce que je m'en souviens jamais par cœur. Nous chercherons donc comme si nous allions trouver, mais nous ne trouverons jamais qu'en ayant toujours à chercher. Ça veut dire, pour moi, moi j'ai un peu quand même une éducation un peu spirituelle, on va dire, les cathos, comme pas mal de ma génération, et j'ai toujours été imprégné par le fait que la vérité, c'est-à-dire le but final, on n'arrivera jamais à le trouver. Il est en dehors de nous. On cherche, on a fait des progrès depuis la préhistoire, mais on n'arrive pas, on progresse, mais on n'arrivera jamais à trouver. C'est-à-dire que toute la science pourra nous apporter plein de réponses, mais on n'aura jamais la réponse finale. Il s'agit un peu de ça. Donc, moi, mon travail, c'est de chercher, d'essayer de m'approcher le plus possible de la forme que je souhaiterais, la forme ultime, l'équilibre ultime, tout en sachant que j'y arriverai jamais. Mais c'est cette recherche qui me pousse et qui me motive.
Qui t'arrode. Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre parcours artistique ? J'ai lu quelque part, petit à petit, j'ai enlevé la toile pour ne laisser que le bois et l'essentiel. Cela veut dire que vous avez peint, vous avez été tenté à la peinture.
Oui, au Beaux-Arts, moi j'étais en peinture, donc j'ai commencé à peindre, mais j'étais très influencé d'une part par les supports surface, donc qui remettaient déjà en cause le support même. Et en plus, j'étais au Beaux-Arts à Aix, où il y avait beaucoup de Nord-Africains qui peignaient beaucoup avec du sable, et puis de la peinture un peu ethnique comme ça, mais en tout cas beaucoup de matière. Donc, plus je peignais en matière, plus techniquement ça devient compliqué de faire tenir beaucoup de matière sur une toile. Donc j'ai commencé à encoller mes toiles sur du bois, je récupérais plein de vieilles planches, je faisais des grands panneaux de bois. Donc je collais mes toiles sur du bois de manière à faire un support rigide. Là-dessus j'empâtais, et puis petit à petit, il y avait toujours des morceaux de bois qui apparaissaient parce que j'ai jamais aimé des choses très bien finies et très bien.
Donc, léchées.
Et puis donc ce bois, finalement, il a commencé à m'intéresser. J'ai commencé à le graver légèrement. Mais vraiment, c'était des petites griffures dessus. Et puis de plus en plus, après j'ai enlevé la toile complètement, et puis j'ai commencé à travailler de plus en plus profond, mais beaucoup en bas-relief. Donc le bas-relief, c'était c'est des grands panneaux de bois qui sont sculptés d'un côté, et c'est des peintures en relief. Et puis, mais il n'y a pas tellement longtemps, du compte, il y a 10-15 ans, j'ai commencé à vraiment à passer à la sculpture en trois dimensions. Mais ça a été un long cheminement qui est parti de la peinture vers la sculpture.
D'accord, c'est ce qui me semblait avoir compris effectivement dans cette phrase. Est-ce qu'il y a des sculpteurs qui vous ont influencé ou fasciné?
Oui, c'est-à-dire, bien sûr, je pourrais en citer. Mais moi, c'est pas que je suis autodidacte, parce que j'ai fait les Beaux-Arts. Mais les Beaux-Arts, à l'époque où on les a fait, c'était quand même après 68, donc tout avait été détruit. Il y avait des profs qui passaient dans les ateliers, mais je m'excuse pour eux, mais très peu m'ont appris. Sauf justement le prof de peinture, Bioulès, qui a quand même fait une belle carrière. Mais les autres, c'était un peu insignifiant. Puis même moi, je les fuyais. Donc on était dans un bel endroit, on avait chacun des beaux ateliers. J'ai plus appris justement des autres étudiants qui étaient autour de nous, qui venaient d'un peu, quand même presque du monde entier, parce qu'il y avait aussi des Japonais et tout ça. J'ai plus appris d'eux. Et puis sinon, moi j'aimais bien travailler seul, quoi. Quand les profs passaient, à la limite, j'avais tendance à me renfermer et puis à faire ma recherche seul, quoi. Ils m'ont en fait assez peu appris, quoi. Je pense que c'est de moi-même où je suis arrivé à épurer et puis arriver à ces formes très géométriques, très, très simples.
La première fois que j'ai vu des choses de vous, j'ai pensé à Constantin Brancucci.
Alors ça, on me le dit souvent, et c'est vrai que j'ai fait des pièces comme ça, des rythmes comme ça qui vont vers l'infini.
Mais en même temps, je me suis rendu compte que non, vous étiez vous dans la courbure plutôt que dans cette élévation toujours plus haut, et que...
Parce que la forme totémique finalement que j'utilise, ça c'est... Quelque part, c'est un peu imposé aussi par le matériau, parce que le bois, on peut faire des constructions avec, mais ou alors justement des bas-reliefs, donc on colle les planches, on prend des panneaux. Mais si on prend le tronc, ce qui m'intéresse le plus, je veux dire un tronc brut, forcément le tronc, il est souvent allongé, il est beaucoup plus long que large. Donc c'est de là que ça vient. Et en plus, bon, si on va un peu plus loin, il y a la forme totémique, c'est quelque chose qui relie.
C'est l'axis mundi.
Oui, c'est ça. Ça part de la Terre, ça va vers l'infini. Voilà. Donc c'est en passant par nous. Quoi, donc
c'est l'axe. Ouais. Vos sculptures verticales sont-elles aussi pour vous des piliers du monde, une connexion entre le ciel et la Terre?
Absolument.
Ou bien est-ce que ce qui vous intéresse le plus, c'est la marque du temps? C'est-à-dire les courbures, les éraflures, les trous, plutôt que cette élévation.
Non, l'élévation, elle fait partie complètement de
la chose. On se tient debout.
Oui, on se tient debout. Donc, j'aime pas tellement le mot totem. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est une forme. On peut la décrire en regardant le dictionnaire, on voit ce que c'est. Donc, ça, c'est un peu la base. Et après, la courbe là-dedans. C'est justement le temps qui se déforme, le côté humain qui fait que là, ça va pas être tout simple de partir d'en bas et d'aller en haut tout droit. Quoi. C'est tout un cheminement compliqué qui va s'enrouler. Et après, les courbes aussi, là j'étais quand même assez passionné parce que je fais beaucoup de photos, c'est mes croquis, c'est mes dessins, les photos. Et j'ai fait pendant très longtemps des séries de photos, je m'assieds au bord de l'eau. Pas vraiment la mer, mais quand même, parce que la mer, il y a le rythme des vagues, mais souvent dans soit des lacs ou alors des petites rivières, et je prenais des photos des vaguelettes et des formes du courant. Et c'est là aussi, ça m'a... Alors là, ça peut être horizontal, mais ça rejoint presque la verticalité, parce que c'est une onde qui part comme ça, soit ça peut être le caillou qui tombe dans l'eau et qui fait une onde qui va se développer à l'infini, ou d'un moment elle s'éteint, mais c'est ce côté des vagues qui, finalement, elles sont jamais deux fois les mêmes, mais elles commencent et puis elles se propagent comme ça, c'est comme quelque chose qui n'a pas de fin.
Quoi. Oui.
Moi, je dis toujours, quand j'étais gamin, on allait souvent, on allait en vacances en montagne et on regardait la nuit le ciel étoilé. Alors, en montagne, on voit bien les étoiles, le ciel est clair. Et toute la famille, comme ça, ils voyaient des constellations, ils voyaient des dessins, comme ça, comme si c'était une voûte plate, la voûte céleste. Et moi, je voyais ça, je voyais tout ça en relief, j'avais ce sentiment de l'infini comme ça, qui est presque me terrorisait. Je veux dire, on n'arrive pas à le maîtriser.
C'est ce que vous expliquez dans le texte pour les visiteurs, oui. C'était dangereux, il y avait une profondeur terrible.
Donc ça se retrouve dans les vagues, dans la mer qui est complètement infinie, bien, ça ne s'arrête jamais, mais ça peut aussi être la verticalité qui, du coup, et c'est un tronçon, parce que je sculpte, ça part de la terre, ça va vers le ciel, mais c'est juste un bout, c'est nous, quoi, c'est très humain, après on ne sait pas du tout où ça va aller, on suppose que ça va continuer, mais on n'en sait rien du tout.
Vous êtes aussi une sorte de démiurge, c'est vous qui créez les ondes, c'est vous qui créez les cicatrices du temps dans le bois.
Je ne les crée pas, non, je pense qu'elles me... Parce qu'en fait, il y a très souvent les mêmes formes qui reviennent,
oui,
donc elles me dominent.
Il y a les ondes,
quoi.
Notamment. Oui.
Elles me dominent, alors peut-être c'est parce que j'ai une espèce de terreur de tout ça, donc j'essaie de l'exorciser un peu.
Mais elles font penser... Certaines de vos sculptures ont quelque chose de très primitif. Mmh. Il y a un panneau, le titre, je ne l'ai pas retenu, un très beau panneau avec cette couleur un peu rouge, marron-rouge, et puis ces formes très simples, très primitives. Mmh.
Oui, alors souvent, c'est vrai qu'au début, j'ai fait des panneaux qui étaient, ça ressemblait presque à de l'art africain. Parce que souvent aussi, travailler comme ça sur des, je pense à des boucliers, enfin, ou des portes de cases, des choses comme ça, avec des signes qui sont, c'est des signes primitifs qu'on retrouve un peu partout dans le monde, quoi. Ça m'a vachement travaillé. Et donc, moi, c'est pas volontaire de rester dans quelque chose de primitif. Mais je suis pas du tout dans la finition ni dans la séduction. Je préfère les choses qui sont. Plus c'est brut, plus ça a de la force pour moi.
Et pour moi, toutes ces traces, je trouve qu'elles font écho aux traces sur le corps humain, aux rides, aux plis, aux marques du temps.
J'avais pas pensé à ça, mais. Ouais, parce qu'en fait, c'est alors bon les ondes en général, je les travaille quand même parce qu'il y a justement il y a le côté de la courbe totale. Après, il y a les formes qui sont beaucoup plus géométriques, qui sont aussi des courbes, des déformations, mais là du coup c'est presque un travail géométrique. Mais toutes les rides et toutes les entailles qu'il y a dessus, c'est un peu dans la volonté de pas vouloir terminer, mais de pas séduire, mais de rester vraiment dans l'idée forte du départ, quoi, et pas enjoliver du tout. Alors il y a des patines, après ça peut briller un peu légèrement, mais ça c'est juste pour protéger le bois ou uniformiser que les nœuds ou les imperfections du bois disparaissent. Mais sinon c'est oui, ça peut avoir un rapport au temps, mais ça c'est pas quelque chose qui me...
Pourtant, il y a une pièce qui est exceptionnelle, qui a subi, elle, un gros aléa de la vie, on pourrait dire, qui a failli brûler dans un incendie, qui a commencé à brûler. Vous pouvez en dire deux, trois mots, parce que ça donne un aspect, ça rend quasiment humain, pour moi, ça la rend humaine, cette pièce-là. D'avoir échappé à cette... Elle est une trace de vie. Et racontez cette pièce, puis peut-être que ça sera plus facile.
Cette pièce, moi, je l'avais conçue. Bon, au départ, c'était une commande. Donc, c'est une forme que j'avais déjà travaillée, mais je voulais faire...
C'était deux courbes.
Oui, c'est deux courbes qui s'élancent vers le ciel, qui s'enroulent l'une autour de l'autre. Donc, c'est une forme que j'avais déjà travaillée, mais c'est pareil, là, je suis toujours à la recherche de la forme parfaite, donc... Je l'ai fait une première fois, elle était très réussie. Après, je voulais faire plus grande, mais bref, il y en a qui étaient plus ou moins. Il y a toujours une histoire de proportion et d'équilibre qui est vachement importante. Bref, elle était terminée, et puis je devais la livrer une semaine après. Et puis l'atelier s'est mis à pris feu, on ne sait pas pourquoi, j'étais pas là. Et quand je suis arrivé, les pompiers avaient à peu près tout éteint, les pièces étaient dehors, mais elles ont été attaquées par le feu, bref. Donc j'étais un peu perdu, j'ai dû annuler la commande, enfin bref, on l'a changé. Et puis quand je l'ai redressée, finalement je me suis aperçu qu'elle avait vraiment gagné, quoi. J'étais beaucoup plus satisfait du résultat une fois qu'elle était brûlée qu'avant. Et ce qui est marrant, c'est que après dans l'été, je devais faire une exposition dans le parc d'un château. Donc je vais visiter ce parc, il y avait un grand parc et au milieu un jardin à la française. Et à la croisée des deux allées centrales, il y avait un bassin rond Donc j'ai décidé tout de suite de l'installer au milieu du bassin qui était rempli d'eau. Donc il y avait le feu, l'eau, la terre, le sel, j'avais tous les éléments. Oui. Mais effectivement, je dirais, elle est comme ça. Et vous avez parlé du mot humilité. C'est ça, ça veut dire qu'on ne sait jamais de toute façon si ça va marcher ou pas. C'est, au dernier moment, tout peut se casser la gueule, ça peut s'effondrer, ou on peut rater, ou bien on peut. Oui, moi je suis dans la taille directe, j'ai pas droit à l'erreur. Donc il suffit d'avoir tranché un peu trop à un moment donné et tout est foutu. Donc il faut toujours rester très. Mais l'humidité, c'est quelque chose qui me. C'est pas qui me motive, mais ça fait vraiment partie de mon boulot. Quoi.
Mais en même temps, cette pièce brûlée comme ça, noircie comme ça, elle fait penser à. J'ai pensé à Pompéi, j'ai pensé à notre monde qui est en train de faire peur. Mmh. Je pensais à de grands incendies. Aujourd'hui, on apprend un grand bouleversement au Maroc. Mmh. Voilà. Elle est comme une représentation de l'humanité en danger et qui survit toujours et qui. Et puis il y a aussi dans la forme comme colonne, il y a pour moi tout le temps l'homme debout, et puis les courbures, et puis les traces. Et puis...
Vous mettez des mots sur cette sculpture. Moi, j'arrive pas à trouver tous les mots qui correspondent à ce que je fais. C'est pas parce que par ambition ni rien, c'est que en général, quand on peint ou quand on sculpte, c'est quand on s'exprime mieux avec nos mains
qu'avec
notre langue.
Je vais vous poser la même question qu'à Catherine. Que trouvez-vous dans son travail qui fait que pour la troisième fois, vous exposez ensemble ?
Alors oui, il y a une grande amitié, mais il y a aussi une complicité dans le boulot. C'est-à-dire, l'amitié, ça permet de pouvoir travailler ensemble sur un même thème. Et en même temps, on sait très bien qu'on est animé par les mêmes buts. Donc même si c'est des manières de s'exprimer différentes, c'est-à-dire Catherine travaille presque de manière totalement opposée à moi, c'est-à-dire qu'elle part d'une toile où au départ il n'y a pas vraiment d'idée préconçue, ça peut être des taches, des traits qui partent. Moi par contre c'est presque l'inverse, quoi. Je veux dire, comme je suis en taille directe, puis même c'est dans ma manière de fonctionner, moi je conçois complètement, c'est une géométrie, donc certaines fois même je fais des petites maquettes en terre avant de commencer, donc j'ai un plan qui est vraiment très précis que je suis. Alors peut-être dans la vie, ça sera peut-être l'opposé. Catherine sera peut-être beaucoup plus organisée que moi. Mais justement, ça fait une espèce de complicité qui est dans les opposés presque, qui fonctionne très bien. Et en plus, bon, là, sur un thème comme ça, sur la courbe, sur le temps, là, on est complètement en phase. Donc c'est un plaisir de travailler comme ça. Et je pense que c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile de trouver une espèce de... Surtout entre artistes, on a souvent des égos assez développés, donc...
Oui, mais là vous êtes arrivé à quelque chose d'harmonieux. Mm. C'est peut-être ce que vous, vous cherchez.
Oui, voilà, l'harmonie, oui. C'est un des buts. Ouais.
Pour terminer cette rencontre, je signale que le 30 septembre à 20h à la galerie, un trio de danseurs proposera une chorégraphie qui s'appelle Tempo, le temps. La peau. Je suis contente d'avoir fait votre connaissance et à bientôt.
Merci.
Merci.